Vous écoutez, on lit pour vous.
Ville de Québec. Mieux consommer l'électricité pour redonner à la population. Un texte commandité paru le 16 novembre 2024 dans La Presse. Soucieuse d'appuyer la transition énergétique, plusieurs villes et municipalités québécoises mettent les bouchées doubles pour réduire leur consommation d'électricité pendant les périodes de pointe hivernale, alors que le réseau électrique est fortement sollicité. C'est le cas de la Ville de Québec. En réduisant la consommation de certaines de ses installations à des moments clés, l'administration municipale fait des économies substantielles qui peuvent être réinvesties dans les services à la population. Une équation payante qui témoigne d'une saine gestion de l'énergie et des fonds publics. Qu'est-ce que l'option GDP? Comprendre la gestion de la demande de puissance. L'option de gestion de la demande de puissance, GDP, d'Hydro-Québec, permet à la clientèle d'affaires et institutionnelle de faire des économies importantes. Comment? En réduisant la consommation d'électricité de leurs bâtiments ou procéder pendant les événements de pointe hivernale ou en reportant leur consommation à l'extérieur de ces périodes, ces clients peuvent faire des économies importantes. Grâce à l'option tarifaire de GDP, les clients participants reçoivent un crédit à la hauteur des mégawatts effacés à la fin de l'hiver. Nouveauté. Pour appuyer les organisations qui choisissent cette option avantageuse, Hydro-Québec offre des appuis financiers visant l'installation de systèmes d'automatisation des bâtiments, l'ajout de points de commande et l'élaboration de stratégies de programmation qui permettent de maximiser la diminution de leur consommation. Pourquoi la Ville de Québec adopte l'option GDP? Appuyer la transition énergétique. La Ville de Québec participe à l'option de gestion de la demande de puissance d'Hydro-Québec depuis 2017, ce qui en fait l'une des premières organisations québécoises à avoir répondu à l'appel de la Société d'État. On a toujours diminué notre consommation d'électricité par souci d'économie d'énergie, explique Jean Lemay, directeur de la division de l'ingénierie et du soutien technique à la Ville de Québec. C'était donc naturel et une suite logique de nos programmes de poursuivre avec l'option GDP pour participer à l'effort de la pointe de consommation dans les périodes hivernales. Au-delà des économies réalisées, c'est aussi un effort collectif. Notre participation à la GDP permet de libérer de la puissance qui peut être utilisée pour aider à la décarbonation du Québec. Des mesures simples. Pour la deuxième ville du Québec au chapitre de la population, la gestion de l'appel de puissance est moins complexe qu'il n'y paraît, malgré l'étendue et la diversité des infrastructures. Avant une période de pointe, les équipes de la ville reçoivent un avis de la part d'Hydro-Québec. La plupart de nos bâtiments, comme les bibliothèques, les centres communautaires et les casernes de pompiers, sont dotés d'une commande numérique et d'automates qui permettent d'enclencher le mode GDP d'un seul coup, affirme Daniel Gagnon. Dans les bâtiments de plus grande envergure, tels que les usines d'eau potable et d'eau usée, la gestion de la demande de puissance est assurée par un opérateur. Pour le bien de la collectivité. La réduction ou le déplacement de la consommation d'énergie est sans incidence sur la qualité des services offerts aux habitants et habitantes de Québec. En revanche, les économies réalisées, elles, profitent à l'ensemble de la population. L'hiver dernier seulement, le crédit obtenu par la Ville de Québec pour sa participation à l'option GDP s'est élevé à 616 655 $. Forcément, quand les factures d'énergie sont à la baisse, c'est de l'argent qui peut être réinvesti au bénéfice de la population, souligne Jean Lemay. D'autres exemples de GDP. Des précurseurs partout au Québec. Les offres d'Hydro-Québec liées à la gestion de la demande de puissance sont à la portée de bon nombre d'organisations, tous secteurs d'activité confondus. Par exemple, des commerces de détail abaissent la température de consigne ou préchauffent leurs bâtiments en prévision des événements de pointe hivernale. Des petites et moyennes entreprises automatisent la gestion de leurs bâtiments ou se dotent d'accumulateurs thermiques pour emmagasiner la chaleur hors pointe. Des leaders du secteur industriel reportent leur production à l'extérieur des périodes de forte demande pendant l'hiver. Grâce à son accompagnement sur mesure et à ses généreux appuis financiers, Hydro-Québec facilite la gestion optimale de l'énergie pour sa clientèle d'affaires. C'était Ville de Québec, mieux consommer l'électricité pour redonner à la population. Un texte commandité paru le 16 novembre 2024 dans La Presse.
Le don au Québec en 6 points. Un texte de Didier Burt paru le 13 novembre 2024 dans La Presse. Une grande partie de la population québécoise est philanthrope. Les dons y prennent des formes multiples et leur importance fluctue selon les régions, mais aussi selon le profil des individus. Certaines tendances se dessinent depuis 10 ans pour former ce portrait du don au Québec. La moitié des Québécois. Un Québécois sur deux est un donateur. En effet, 51% de la population québécoise fait des dons, selon la dernière étude sur les tendances en philanthropie au Québec, menée en octobre 2023 par l'agence Épisode auprès de 2503 Canadiens âgés de 16 ans et plus, dont 1501 Québécois. La proportion de donateurs est en baisse au Québec, puisque 61% de la population québécoise donnait en 2013. La chute a été marquée en 2020, 46%. Malgré un rattrapage en 2021, 55%, la tendance est repartie à la baisse. D'abord, les femmes. Les Québécoises donnent plus fréquemment que les Québécois. 52% des femmes donnent, ce qui est le cas de 50% des hommes. Par contre, ces derniers donnent davantage. Leur don moyen s'élève à 534 $, tandis que celui des femmes s'élève à 318 $, non donateur exclu. Les femmes donnent plutôt lors de bals ou de galas, tandis que les hommes préfèrent donner lors d'encans ou de tournois de golf. Elles accordent davantage d'importance au fait de travailler pour une entreprise socialement engagée, tandis que les hommes déclarent davantage donner par devoir ou obligation. Les immigrants donnent plus. Les Québécois issus de la deuxième génération de l'immigration donnent plus souvent, 59%, que l'ensemble de la population québécoise. Quant aux Québécois issus de la première génération de l'immigration, ils donnent nettement plus que n'importe qui d'autre, puisqu'ils donnent annuellement 718 $ en moyenne. Les dons des Québécois issus de l'immigration sont tournés vers davantage d'organismes, avec une préférence pour les organismes de portée nationale ou internationale. Ces Québécois donnent plus aux organismes religieux et de protection des animaux. Ils sont moins réceptifs aux sollicitations postales. Hausse du montant moyen. Au Québec, le don annuel moyen rapporté à la population totale s'élève à 260 $. Mais si on compte uniquement les donateurs, le don annuel moyen monte à 422 $. Alors que les donateurs sont moins nombreux, le don moyen est nettement à la hausse, puisqu'il n'était que de 308 $ en 2013. Pourtant, 7 donateurs québécois sur 10, 68%, estiment que l'inflation a un impact sur leurs dons et leur capacité à donner. Malgré la hausse des prix, 63 % des donateurs québécois prévoient de donner autant ou plus en 2024. Des dons de formes diverses. Les Québécois apprécient particulièrement certains événements bénéfices tels que les tirages et loteries, les soupers bénéfices et les spectacles bénéfices. Ils tendent à répondre plus favorablement aux sollicitations postales, aux demandes de proches, ainsi qu'aux sollicitations par courriel et à la Caisse des commerces. Les membres de la génération Z, nés en 1996 ou après, sont plus sensibles aux défis sportifs. Le don n'est pas seulement une affaire financière. En plus de leur don en argent, 70 % des donateurs québécois offrent un soutien autre que financier. Plus nombreux à Québec. C'est dans la région de Québec qu'on trouve la plus forte proportion de donateurs. Dans cette région, ce sont 55 % des résidents qui donnent, avec un don moyen de 459 $, non donateur exclu, et une préférence pour les causes locales. Par contre, c'est dans la région métropolitaine de Montréal que le don moyen est le plus élevé, 489 $. Les Montréalais soutiennent davantage les causes nationales et ils contribuent à un plus grand nombre d'organismes. Ils aiment particulièrement donner lors de défis sportifs. C'était « Le don au Québec en 6 points », un texte de Didier Burt paru le 13 novembre 2024 dans La Presse.
Oumu Kalsum Niang, séduite par le Manitoba, un texte d'Ophélie Doirot, paru le 7 novembre 2024 dans La Liberté. À l'occasion de la 12e Semaine nationale de l'immigration francophone, découvrez les portraits de ceux et celles qui ont fait du Manitoba leur maison. Arrivée du Sénégal au Manitoba pour suivre des études à l'Université de Saint-Boniface, Oumu Kalsum Niang compte bien s'installer dans la province du Milieu après la fin de ses études. Depuis bientôt 2 ans, Oumu Kalsum Niang avait envie de nouveau, lorsqu'elle a présenté sa candidature auprès de l'Université de Saint-Boniface, USB. « Je voulais poursuivre pour acquérir de nouvelles compétences dans mon domaine. » Je suis étudiante internationale en administration des affaires spécialisée en finance et en comptabilité. C'est donc en janvier 2023 qu'Oumu Kalsum Niang pose ses valises à Saint-Boniface. Mais elle ne cache pas que c'est le hasard qui l'a amenée là. J'ai envoyé plusieurs candidatures dans différentes universités au Canada. L'USB a été la première à me répondre et à m'ouvrir ses portes. Je me suis dit pourquoi pas. C'était l'occasion d'étudier en français, tout en étant dans une province anglophone pour apprendre l'anglais. J'avais quelques bases en anglais. Mais en étant au Manitoba, mon anglais s'est nettement amélioré. Le défi de la langue. En parlant anglais, c'était justement l'un des premiers défis qu'a rencontré Oumu Kalsum Niang. Je viens d'un pays où le français est davantage présent que l'anglais. Alors, au début, c'était difficile pour plusieurs choses au quotidien. C'est un aspect à prendre en compte quand on vient comme étudiant international. Contrairement à d'autres histoires d'immigration, le côté administratif s'est relativement bien passé du côté d'Oumu Kalsum Niang. Mes 4 dernières années étaient au Togo pour faire mes études secondaires. J'ai envoyé ma candidature depuis le Togo. C'était un peu complexe et c'est assez long. Mais par rapport à d'autres histoires, je trouve que c'est relativement très simple pour moi. Dans son parcours, elle a aussi pu compter sur l'administration de l'USB qu'elle souhaite remercier. L'USB fait un excellent travail pour accueillir les étudiants internationaux. Ils font beaucoup d'ateliers de préparation, notamment avec le bureau international. Tout ceci m'a permis de m'adapter plus rapidement à la vie manitobaine. Parce que, par exemple, il y a quelques comportements qui m'ont un peu surprise. Je pense notamment au fait dont la manière les gens peuvent se comporter les uns envers les autres. En Afrique, il y a beaucoup cette notion de partage, alors qu'ici, c'est très individualiste. Mais je comprends pourquoi la culture est différente et avec beaucoup de communication, on arrive à faire fonctionner les choses. Des occasions. Les choses semblent d'ailleurs sourire à Oumu Kalsoum Niang, puisqu'elle est la présidente de l'AEUSB. Je voulais aider les nouveaux étudiants internationaux dans leurs premiers pas. J'avais aussi envie de promouvoir la diversité et favoriser des lieux où tout le monde puisse se sentir accueilli. C'était aussi une occasion de pouvoir développer mes compétences de leadership, de travail en équipe. J'ai de la chance d'être bien entourée. C'est important dans les moments où il est difficile de gérer plusieurs dossiers en même temps. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités à l'USB. Les gens nous font confiance. En plus d'être la présidente de l'Association des étudiants de l'USB, je suis aussi l'assistante de direction d'Aline Fréchette Alichak, qui est coordonnatrice des activités de la vie étudiante au Bureau de la vie étudiante. Le Canada est vraiment un bel endroit pour permettre aux gens de se développer. C'est dans cette optique qu'Oumu Kalsoum Niang espère rester après ses études. J'aimerais pouvoir rester pour travailler dans le secteur banquier ou dans des entreprises au niveau du secteur des finances. D'après les expériences de mes amis et familles qui sont restés au Sénégal, il me semble que ce serait plus simple aussi de trouver un métier en rapport avec mes compétences au Canada. Néanmoins, elle reconnaît que l'éloignement avec sa famille ne sera pas forcément évident. Je n'ai pas eu la chance de retourner au Sénégal depuis 2023. J'espère que ce sera un voyage pour les prochaines vacances. L'éloignement avec la famille est vraiment difficile. J'ai de la chance d'avoir ma sœur jumelle avec moi au Manitoba. Nous avons réussi à nous créer un réseau d'amis, ce qui permet aussi d'avoir une vie sociale assez occupée. Et c'est une bonne chose. La chaleur humaine compense le froid manitobain. C'était Oumu Kalsoum Niang, séduite par le Manitoba, un texte d'Ophélie Douaro, paru le 7 novembre 2024 dans La Liberté.
Haïti. Gary Conil, le CPT et les dangers de l'hubris. Un texte de Rorom Chantal, paru le 13 novembre 2024 dans Alter Presse. Nos hommes et femmes politiques liraient avec profit aujourd'hui les Grecs de l'Antiquité qui reconnaissaient les dangers de l'hubris et le déconseillaient dans leurs mythes et leurs tragédies. Ils l'assimilaient souvent à un règlement de compte infligé par la déesse du châtiment et de la vengeance, Némésis. Le plus connu des mythes grecs pour mettre en garde contre l'hubris est peut-être celui de Dédale et d'Icare. Selon la légende, afin d'échapper à l'incarcération sur l'île de Crète, le maître artisan Dédale façonna deux paires d'ailes faites de plumes et de cire. Les ailes donnèrent à Dédale et à son fils Icare le pouvoir divin de voler. Cependant, le jeune Icare, exubérant et trop confiant, ignora les avertissements de Dédale de ne pas voler trop haut. La chaleur du soleil fit fondre la cire qui maintenait les ailes ensemble, et Icare plongea vers sa mort. Voler trop près du soleil. On peut affirmer aujourd'hui qu'en volant trop près du soleil, Gary Conil s'est brûlé les ailes. Depuis sa nomination comme premier ministre par le Conseil présidentiel de transition, CPT, il n'a eu de cesse de montrer des signes palpables et inquiétants d'hubris. Quelques semaines après son installation, il outrepasse clairement les limites de son pouvoir en entreprenant un voyage officiel aux États-Unis dont les membres du CPT ne seront informés que par un message WhatsApp, envoyé à 3 heures du matin le jour même de son voyage. quelle désinvolture. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU fin octobre, il prendra sur lui de rencontrer le président du Brésil, Lula da Silva, sans inviter son supérieur hiérarchique, le conseiller présidentiel, Leslie Voltaire, également présent à New York. Au cours des dernières semaines, ont circulé sur les réseaux sociaux des images qui montrent un pathétique Conil portant des casquettes estampillées PM. Sur une autre photo, on le voit paré d'un costume militaire, pouvant donner à penser qu'il voulait usurper le titre de commandant en chef de la police et des forces armées. Impression que ne pouvait que contribuer à renforcer son discours récent devant un contingent militaire, dans lequel il invitait les soldats à lui être loyaux, sans aucune référence au CPT. Et lorsque le CPT a décidé de rencontrer les membres du Conseil national de sécurité, la réplique de Conil sera immédiate. Il les rencontre à son tour séparément. L'outrecuidance de Conil l'a également poussé à refuser d'obtempérer lorsque le CPT a décidé d'inviter la ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuis, à donner des explications sur l'incident de New York. Lui et ses ministres s'opposeront à toute idée du CPT de remaniement au sein du cabinet ministériel. Ultime insubordination. Dans un discours public il y a quelques jours, Conil conditionnera une telle démarche au renvoi préalable par le CPT des trois membres indexés dans le scandale de corruption de la BNC. Même un vulgaire partisan de Conil trouverait inexcusable sa décision d'inviter au pays, dont le dernier président a été brutalement assassiné par un commando de mercenaires étrangers, des agents de sécurité étrangers, mercenaires déguisés, sans consultation avec le CPT. Suite à la révocation de Conil par le CPT, l'annonce concomitante par les chefs de la coalition terroriste « Vivre ensemble » d'une nouvelle vague de terreur au pays a de quoi soulever des questions plus que légitimes sur de possibles liens de l'ex-PM avec les bandits que Conil était venu défaire, maison après maison, quartier après quartier. En juxtaposant provocation et maladresse contre-productive, Conil était donc devenu, y compris aux yeux de leaders d'opinion a priori sympathiques envers lui, le fossoyeur du régime de transition bicéphale issu de l'accord du 3 avril et de son propre destin en tant que premier ministre. En somme, la chute de Conil n'est qu'une conséquence prévisible de sa propre témérité et de son égo surdimensionné. Comment l'expliquer? L'hubris s'entend généralement au sens d'un cocktail explosif d'excès de confiance, d'ambitions excessives, d'arrogance et d'orgueil alimenté par la soif insatiable du pouvoir et du succès. Lorsqu'il s'accompagne de mépris pour les conseils et de critiques avisées, l'hubris conduit naturellement les personnes en position d'autorité à largement outrepasser leurs capacités et prérogatives, à ignorer les rapports de force en présence et à prendre des décisions risquées et imprudentes avec des conséquences néfastes, parfois catastrophiques pour elles-mêmes, leurs organisations, leurs institutions et même pour la société. Plus technocrate que politique, écrivait fin juin l'éditorialiste du quotidien québécois Le Devoir, Guy Taillefer, Conil est un acteur de l'ingérence historique et structurelle des États-Unis et de la communauté internationale dans les affaires haïtiennes. En effet, ancien chef de cabinet de l'ancien président américain Bill Clinton, lorsque celui-ci était coprésident de la commission intérimaire pour la reconstruction du pays après le séisme de janvier 2010, Conil est manifestement pris au piège de l'hubris. Il est donc devenu la principale victime de ses propres excès. Il n'a agi qu'en pensant à sa petite personne. Avec de graves conséquences pour le pays. Car, à cause de l'hubris, les tâches urgentes confiées au CPT, au premier ministre Gary Conil et à son gouvernement se sont, dès le départ, transformées en mission impossible. En 6 mois d'une calamiteuse collaboration, ils n'ont pas seulement échoué à freiner l'insécurité des bandes armées qui ont depuis renforcé leur contrôle du territoire national, à créer les conditions propices à l'organisation d'élections crédibles et à poser les jalons institutionnels susceptibles de mettre fin une fois pour toutes à cette transition qui n'en finit pas. Par leur urbis, les bruits de corruption, les luttes de pouvoir au sein du CPT et entre lui et le gouvernement, ils ont aussi tué l'espoir né de l'idée d'une transition de rupture qu'ils étaient censés incarner. Que faire? Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, les États-Unis et les autres acteurs de la communauté internationale influents en Haïti nous ont fait perdre un temps précieux en essayant d'imposer l'organisation d'élections qui n'auraient aucune réelle valeur démocratique, avant de se résoudre, après plus de 2 ans de vacuité avec le premier ministre Ariel Henry, à soutenir l'idée de la société civile haïtienne d'un gouvernement de transition. Dans l'intervalle, les bandes armées ont malheureusement consolidé leur emprise sur le pays. Aujourd'hui, il devient de plus en plus évident que seul un gouvernement composé d'experts totalement indépendants et incorruptibles, connus pour leur intégrité et militantisme en faveur de la démocratie, pourra relever les défis bien connus de la transition, c'est-à-dire lutter contre l'impunité et réformer la justice haïtienne et les institutions publiques, défaire l'emprise des élites locales sans scrupules et sans honte qui sont de connivence avec les bandes armées. Quant à nos actuels et futurs dirigeants, ce nouvel épisode de la transition haïtienne comporte de sérieux avertissements qu'ils n'ignoreront qu'à leurs risques et périls. Il démontre que si la confiance en soi, l'ambition mesurée et la fierté sont des qualités nécessaires pour tout leader, chez l'arrogant, elles se transforment plutôt, d'une manière ou d'une autre, en excès, l'inclinant au mépris. Le problème est que les dirigeants arrogants finissent par aller trop loin. Auquel cas, comme Corneille l'aura lui-même appris à ses dépens, le châtiment infligé par Némésis risque d'être sévère. Le CPT et le nouveau premier ministre sauront-ils apprendre la leçon? C'était Haïti, Gary Corneille, le CPT et les dangers de l'hubris. Un texte de Rorom Chantal, paru le 13 novembre 2024 dans Alter Presse.